Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil, et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs restaurateurs entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflu, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons. Alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir...
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui je vous invite à passer un moment en compagnie d'Armand Arnal.
Moi, quand je dessine, quand on dessine, parce que je fais pas tout seul, mais quand on dessine, en tout cas les menus, on essaye de penser au menu dans sa globalité. Et donc, on joue sur ce que la nature nous donne, en disant qu'on est d'accord que, voilà, il y a 4, 5 produits, 6, 7, 8, 9 dans une saison. Ils fonctionnent ensemble, puisqu'ils grandissent ensemble, ils sont dans la même homogénéité saisonnière. Donc, ça fonctionne. Peu importe ce qu'on va mettre, ça va marcher. Maintenant, comment on accélère un petit peu, comment on accompagne le produit, comment on en fait quelque chose de travaillé avec du sens sans le dénaturer. Voilà. C'est comme ça qu'on construit avec les équipes.
Armand règne depuis 14 ans sur la Chassagnette, ce restaurant, enfin cet immense domaine en permaculture, lové en pleine Camargue. Dans ce jardin d'Éden, Armand s'est mis au diapason de la nature, des saisons et de son territoire pour imaginer une cuisine intuitive, tout en finesse, pleine de vivacité et d'esprit. Au-delà de ses assiettes, incroyablement délicieuses, j'aime le personnage bon vivant, esthète et ouvert d'esprit, qui sait prendre de la hauteur, du recul et croiser différentes inspirations artistiques pour mieux se renouveler. Avec lui, nous avons parlé de cascadeur, d'attendre, de cucurbitacée et de frustration. N'oubliez pas, le partenariat avec Elle à Table continue et vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode sur le site elle.fr 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute! Bonjour Armand.
Bonjour.
Ça fait 14 ans que tu es ici, je crois depuis 2016, tu as fait tienne cette maison.
Oui, ça fait depuis 2006, oui, depuis avril 2006.
Pardon.
J'ai essayé de faire en sorte qu'un projet comme la Chassagnette existe au-delà d'une envie de chef de conquérir un endroit, quoi. Voilà. C'était plus un état d'esprit que j'avais envie de mettre en place ici.
Et tu te sens chez toi ici?
Je me sens chez moi, oui, je me sens chez moi parce que j'adore l'environnement, j'adore la Camargue. C'est extrêmement agréable de travailler dans ce restaurant. Qui est plus comme une maison aujourd'hui. Et voilà, les gens qui travaillent avec moi, tous les collaborateurs qui sont là aussi depuis longtemps. Hein. J'ai Benoît, qui est le chef de cuisine, qui est là depuis quasiment 11 ans. Donc, tous les autres membres de l'équipe de cuisine, ils sont venus en stage ou en apprentissage et ils sont restés. Donc, c'est quand même quelque chose de très agréable. On est plus dans un esprit de famille avec des échanges très joyeux et c'est très, très agréable.
Comment t'es arrivé ici après tes expériences à New York?
J'étais à New York et Paris après New York pendant un an où je travaillais pour l'école de formation d'Alain Ducasse. et j'étais chargé des développements internationaux. Donc j'étais envoyé aux quatre coins du monde pour mettre en place des cartes. Et en fait, c'est une amie de Maya Hoffman, qui est la propriétaire des lieux, qui m'a présenté Maya Hoffman. Et je lui ai fait un déjeuner et ça s'est très bien passé. Elle m'a donné les clés de ce très beau bateau.
Tu avais envie de revenir dans la région parce que toi, tu as passé ton enfance à Montpellier.
Ouais, j'avais envie de partir en Espagne, plus exactement. Et c'était juste avant de très grandes vacances que j'avais prévues avec ma femme. Et on nous a présenté cet endroit et voilà, il y a eu un coup de foudre. Voilà, je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi l'endroit. J'ai plus l'impression que c'est l'endroit qui m'a choisi. Vraiment, c'était vraiment ça. On a passé le pont, on s'est arrêté sur le parking, on a passé le pont, on est rentré dans cet univers qui est magnifique, qui est la Chassagnette, qui est une oasis sublime. Et je crois que voilà, enfin je sais pas, c'était l'art quoi, c'était évident.
Tu rêvais, est-ce que tu rêvais de ça, tu rêvais même pas, parce que c'est vrai que c'est, on se dit que c'est un peu le paradis cet endroit.
Pas du tout parti là-dedans, puisque j'étais à New York, dans une ville très jeune, très dynamique, qui poussait. À Paris, je me suis pas senti très très à l'aise. En plus, je voyageais tout le temps, et je me suis dit, je vais m'installer à Barcelone, un petit resto, et puis voilà, on va faire les choses comme ça, très très simplement quoi. J'avais pas de plan de carrière. J'en ai toujours pas d'ailleurs. j'avais pas d'objectif d'étoile ou de quoi que ce soit. J'avais juste envie d'être bien dans un environnement. Et voilà. Et la Camargue m'a appelé, quoi. Donc, tout simplement, je me suis retrouvé là. Je me suis pas posé de questions, quoi. C'était là.
Tu rêvais d'être cuisinier, petit?
Je rêvais d'être cascadeur. Ce qui est bien, c'est quasiment le même métier. Mais non, je rêvais pas. Je voulais être. Quand ça a commencé, les choses ont commencé un peu à se dessiner, parce que à l'école, je tenais pas trop en place. Et à partir de la seconde, ma mère m'a dit, écoute, t'as pas trop envie d'être à l'école, donc trouve quelque chose qui t'intéresse pour te sortir un peu de ça. Et j'aimais beaucoup la photographie, j'en faisais beaucoup déjà très jeune, et j'aimais beaucoup la cuisine, la pâtisserie plus exactement. Et voilà, et je crois que j'ai fait des stages, et je suis tombé sur un photographe culinaire qui avait, puisqu'à l'époque on travaillait comme ça, il y avait un photographe, et il y avait même un styliste, donc c'était intéressant. Et en fait, je me suis senti bien avec le styliste plus qu'avec le photographe. Et après, j'ai enchaîné sur un stage en cuisine. Et là, j'étais vraiment très à l'aise, quoi. Donc, peut-être que j'aurais eu un meilleur photographe et un moins bon cuisinier, ça aurait été l'inverse. En tout cas, voilà, ça s'est passé comme ça. C'était dans un restaurant qui s'appelait La Manufacture à Issy-les-Moulineaux. Donc, ça remonte à quelques années.
Et t'as fait une école,
Et après, beaucoup plus tard, j'ai fait pas mal de stages. J'ai travaillé avec Pierre Hermé. J'ai fait pas mal de stages. Je suis parti en province aussi, à Bar-sur-Seine, travailler avec un ancien chef d'Alain Ducasse. Enfin, j'ai pas mal bougé. À un moment donné, on m'a dit oui, il faut quand même que t'aies un CAP. Voilà.
Ah, t'avais pas fait d'école, t'as vraiment appris sur le tas dans les cuisines.
Et d'ailleurs, je me suis mis à l'école alors que j'avais déjà 2-3 ans de cuisine. Et c'était trop tard, puis je me suis vraiment ennuyé à l'école.
Pour avoir le diplôme, en fait.
Ouais, enfin... mais je suis même pas allé jusqu'au diplôme. Je me suis arrêté là parce que, en fait, j'ai été marqué les trois premiers restos et la pâtisserie avec Pierre Hermé. M'a donné une mauvaise habitude, c'est-à-dire que je suis tombé sur des gens qui étaient des ayatollahs du produit, quoi. Et donc, tout de suite, c'est quelque chose, en plus de mon enfance où mes grands-parents paternels vendaient des légumes sur le marché. Enfin, j'ai toujours eu un contact avec le produit, inconsciemment. Et en fait, ce qui m'a plu dans ce métier-là, c'est que tout d'un coup, tous ces souvenirs d'enfance de très beaux produits, ben je les ai eus finalement dans les mains, pas seulement que dans la bouche. Et donc l'école, j'ai pas supporté, puisque on apprenait à faire de la cuisine avec des produits extrêmement moyens. J'ai proposé au chef de faire venir un producteur. Enfin bon, j'étais déjà hyper actif du haut de mes 16-17 ans. Je disais, mais je fais venir un peu un éleveur de volailles. Enfin vraiment, on peut changer les trucs. Bon, ben c'est assez compliqué finalement de faire ça. J'avais pas conscience de ça et mon esprit rebelle m'a amené à quitter l'école, quoi, et à continuer mon parcours en apprenant sur le tas, qui est plus possible aujourd'hui de faire ça. Donc
Ah oui, tu penses ?
Ouais, on peut plus, il faut être embauché, on peut plus faire de stage non rémunéré comme
compliqué.
J'en ai fait toute ma vie quoi. Où on bosse 12 heures et on n'est pas payé, ça c'est fini quoi. Heureusement d'ailleurs, c'est bien. Mais oui.
Non, mais tu pourrais commencer aussi te dire commencer en bas de l'échelle, peut-être pas dans des restaurants gastronomiques ou
ouais. Bah c'est beaucoup plus dur, les gens, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui les restaurants, ils ont la méfiance de ça. Enfin, nous, on le voit bien aussi. Moi, qui suis comme ça, j'ai pas eu de très bonnes expériences encore avec des gens qui arrivaient et qui avaient juste envie d'apprendre. Donc, c'est extrêmement compliqué. Je pense à la réinsertion qui est intéressante. Heureusement, aujourd'hui, il y a des modules qui sont des modules plus rapides, donc qui peuvent donner juste une petite impulsion et après récupérer la chose. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que finalement, quand on arrive à travailler avec des gens qui ont déjà eu une vie avant, bah, ça apporte quelque chose. En tout cas, pour nous, ça nous apporte quelque chose puisqu'on voit des gens qui ont des angles totalement différents, qui n'ont pas fait que vivre pour la cuisine. Et ça nous oblige, nous, les cuisiniers, à voir notre façon de transmettre un petit peu plus différente. Et c'est ça qui est intéressant.
Et la révélation, tu l'as eue tout de suite quand tu as commencé à travailler ou c'est venu avec le temps ?
C'est venu avec le temps, mais moi, j'aimais bien cet esprit très familial quoi, de la cuisine, le fait d'être tout le temps ensemble. J'aimais bien aussi un peu ce côté paramilitaire, je crois, je dois avouer. Je crois que ça m'aidait beaucoup à me structurer. Ah ouais, la discipline m'a fait un peu de bien. J'ai l'impression que j'en avais besoin. Quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur, je me dis que j'ai supporté des choses extrêmement difficiles. Mais peut-être que c'était le moment de le faire. Voilà. Mais non, c'est globalement, c'est une très belle expérience.
Il y avait des chefs que tu admirais quand tu as commencé ?
Alors, j'aimais beaucoup... Je me suis tout de suite intéressé à Alain Ducasse parce que c'était un petit peu du fait que je travaillais avec Pierre Hermé. Mes parents étaient déjà amis avec lui. Donc, il y avait toute cette sphère un peu qui tournait autour. Il y a Frédéric Grasser-Hermé qui m'a énormément aidé, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier et qui m'a envoyé chez un tel et chez un tel. Donc oui, j'ai eu de la chance de la rencontrer. Elle a beaucoup participé à mes choix de départ, en tout cas.
Et tu avais envie d'évoluer tu disais tout à l'heure que tu pensais pas aux étoiles, tout ça. Est-ce que tu avais envie d'évoluer dans la cuisine gastronomique? Enfin, tu voulais...
J'avais envie de... Moi, j'ai commencé à faire... J'ai commencé à cuisiner pour mes potes. On n'avait pas assez d'argent pour faire le restaurant et la boîte de nuit, donc on cuisinait à la maison.
On s'entriait sur la boîte de nuit.
Voilà, je faisais des choses très simples. Je faisais des pâtes, des risottos, du tartare et des choses comme ça. Et je me suis toujours dit, bref, c'était d'avoir un restaurant, mais de pas être dépendant de qui que ce soit et encore moins d'un chef. Avec leur caractère très agréable. Et donc, je me suis dit, oui, j'avais des rêves de restaurant, mais très simples, en me disant, bon, je vais apprendre dans les restaurants gastronomiques, mais comme ça, si demain j'ai un bistrot et que je fais un tartare, je ferai le meilleur tartare. Si je fais, enfin voilà, peu importe les plats, j'avais pas envie forcément de me retrouver chef étoilé, mais j'avais envie de passer par les meilleurs pour pouvoir faire après le meilleur.
Le potager, tu l'as développé petit à petit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la chassagnette entre dans une nouvelle ère. Tu m'en avais parlé pendant l'interview, pendant le confinement. Vous l'avez agrandi. Il y a un nouveau jardinier qui est arrivé.
Oui, que tu as croisé tout à l'heure. Là.
Et vous continuez à le cultiver en permaculture avec des techniques encore plus douces. Vous venez d'accueillir une cinquantaine de ruches. Et l'idée, c'est de pousser encore plus loin l'autosuffisance de la chassagnette.
On a le poulailler aussi. Et maintenant, on va mettre des agneaux, certainement des chèvres, des choses comme ça.
Je demandais à Anaïta si elle allait avoir des taureaux.
Non, pas encore des taureaux. Les taureaux, c'est hyper important. On fera un sujet un jour si vous voulez, mais c'est hyper important pour la préservation de l'écosystème de Camargue, qui est un écosystème hyper fragile, et le taureau l'est aussi, et donc ça c'est un autre débat, mais oui, on s'est aperçu il y a quand même 2-3 ans qu'on n'arrivait pas à passer une marche dans la production, même en prenant beaucoup plus de place, en laissant les terres se reposer entre les différentes productions, on bloquait. Et donc, en parlant, en discutant, en échangeant avec un nouveau jardinier qui est arrivé, la solution, c'est l'animal, quoi.
Pour pour développer en fait la production du...
Bah pour aider la terre à se régénérer tout simplement, entre le fait qu'il retourne la terre avec ses pattes, le fait qu'on récupère ses excréments pour nourrir la terre, etc., etc., le fait qu'il mange certaines mauvaises herbes, etc., etc. On a l'impression que c'est un accompagnement, et ça devient quelque chose d'assez évident en fait, voilà. Puisque si on regarde un petit peu l'histoire, on sait ce qu'on a toujours fait. Je veux dire, on a commencé à dérégler un petit peu tout le jour où on s'est séparé et on s'est éloigné des animaux.
Donc là, c'est revenir à un système total. En tout cas,
c'est pas revenir à un système, c'est être beaucoup plus à l'écoute, quoi. On a fait que parler, on a fait que s'écouter, et là, c'est un petit peu plus intéressant d'écouter et de regarder et d'observer. Je pense que les bienfaits du confinement, en tout cas pour nous, ça a été ça. C'est vraiment cette capacité encore de lâcher prise et de regarder, tout simplement, quoi. On regarde ce qui se passe, pas à travers un écran de téléphone, mais regarder les arbres, regarder la nature, savoir écouter un petit peu ce qu'elle nous raconte, parce qu'elle parle beaucoup, cette nature. Et puis après, se plonger dans des livres, alors pas forcément des livres très scientifiques sur comment cultiver, mais plutôt des romans. On peut commencer par des romans comme Le Regain de Jean Genet. Voilà, toute cette histoire, elle existe, elle est très présente, et elle a toujours été là. Et aujourd'hui, il faut juste y revenir, tout simplement. C'est pas un grand virage à prendre. C'est essayer juste de mettre un petit peu de conscience et d'énergie positive là-dedans.
Vous êtes autosuffisant sur les légumes et les herbes ?
On est autosuffisant sur les légumes, sur les herbes. On prend du réassort pour tout ce qui est fruits, puisqu'on n'a pas encore la capacité de vivre totalement en autonomie avec les fruits, puis qu'il y a des jolis producteurs autour qu'on a envie d'aider aussi. Hein. Ça fait partie quand même tout ça d'un cercle très, très vertueux. Donc on ne veut pas non plus être complètement renfermé sur nous-mêmes. Mais on commence à développer sérieusement des choses. Là, les abeilles, en l'espace de 4 mois, c'est hallucinant le retour, le travail qui a été fait, la qualité des produits, sur la taille des produits.
Ah oui, vous voyez déjà le résultat
en
quelques
mois.
C'est
fou, c'est fou. Mais elles ont travaillé, on a ramassé 1,5 tonne de miel en 3 mois. C'est-à-dire qu'elles ont, chaque ruche a fait 30 kilos de miel. C'est hallucinant. Voilà. Quand on en parle autour de nous, les gens trouvent ça complètement hallucinant.
Et au-delà, ce que tu dis, c'est que c'est bénéfique pour tout le potager. Enfin, vous voyez le résultat.
Bien sûr, il y a une hyper pollinisation géante sur tout le potager. Enfin, c'est quelque chose de fou, quoi.
Et c'est lui qui dicte le travail. Tu dis faire une cuisine du vivant. Enfin, est-ce que c'est assez loin de ce que tu as appris quand tu as fait ton apprentissage dans les
établissements ? C'est assez loin de ce que j'ai appris, oui et non, puisque quand on a la chance de travailler dans des grandes structures, on a la chance d'avoir la quintessence de ce qu'un producteur peut produire. Donc on a des produits absolument géniaux, calibrés, tout ça. Enfin, vraiment, on a des choses très très belles. Donc on a quand même le goût qui se développe par rapport à ça.
Mais pour l'instinctivité, je pensais plutôt...
Ouais, après, moi, je suis arrivé ici la première fois en 2006. Je suis allé voir le jardinier. Voilà, j'ai pris un calendrier des récoltes. Voilà, au mois d'avril, il y a ça. Il y a de la pêche. Il y a de l'asperge. Il y a des petits pois. Donc je lui dis, bon, ben, c'est bon, on est bon. On a ça. Le mec, il m'a dit, non, en fait, non.
Ça ne marchera pas.
Ici, on attend. Et bon, j'étais jeune, hein, j'avais 28 ans, c'était ma première place de chef. Je pense que ça m'a arrangé d'attendre, de dire bon, ok, j'attends. De mettre dessous le potager, c'était en même temps un refuge et en même temps ça donnait énormément de liberté, puisque quand il y a 3 produits, ben il y a 3 produits, il faut faire avec, quoi. Et donc j'ai pas essayé de forcer, j'ai pas essayé de dire bon, ben, je prends des compléments, j'achète du yuzu, j'achète du foie gras, j'achète des trucs comme ça. Non, ben, je vais faire avec ce qu'il y a, ok, je fais avec ce qu'il y a.
T'as pas peur de la page blanche ?
J'en ai eu peur au début, puisque au début, les premières cartes, c'était très, très clairement des très fortes inspirations de ce que je connaissais. Beaucoup de recettes de Ducasse et tout ça. Mais il y a eu assez rapidement des recettes très personnelles, familiales. Voilà. Des trucs que je mangeais quand j'étais petit, des choses comme ça. Donc j'ai mélangé tout de suite ça. Et puis aussi beaucoup d'inspiration de souvenirs de plats dans tel ou tel endroit, sans chaque fois que ça soit des plats forcément de restaurant gastronomique. Quoi. Voilà. J'ai retrouvé des plats que j'avais mangés dans une petite brasserie à Venise, des plats que j'avais mangés au Maroc, etc., etc. Le fait d'avoir fait tous ces voyages l'année d'avant pour Monsieur Ducasse, en fait, m'avait un petit peu inspiré aussi de des cartes et des envies que j'avais, je voulais.
Mais bon, il faut une ouverture d'esprit quand même de se dire, j'attends que le potager fournisse ce qu'il a à fournir et en fonction je crée mes plats. C'est pas évident, tu vois, surtout il y a 14 ans quand t'es arrivé, tu te dis que, tu vois, comme tu dis, les restaurants souvent ils faisaient leurs cartes et après, ils achetaient en fonction de ce qu'ils avaient imaginé. Là c'est quand même le cheminement inverse. C'était dans ce sens-là où
Il y a eu des loupés, hein, forcément, en faisant des choses comme ça, mais c'est vrai que moi, ça m'arrangeait un petit peu, je pense. Vraiment, hein, je suis très honnête là-dessus, je crois que ça m'obligeait, en tout cas, à être beaucoup plus créatif. Et donc, il y avait une carte qui était... je sais pas si elle était beaucoup moins équilibrée qu'elle est aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il y avait ce mélange de plats très réconfortants qui se retrouvaient avec des créations un peu plus folles. Et donc, de temps en temps, ça partait un peu loin. Et puis, le plat d'après, on revenait à quelque chose de plus chaleureux. Donc, et j'ai réussissé comme ça à dessiner quelque chose. Mais c'était beaucoup plus classique. Voilà. Il y a quand même une base classique dans ce que je fais qui est encore très présente. Quoi. Voilà. Moi, j'aime pas les courants. J'ai pas envie de suivre des modes et des choses comme ça. Je trouve qu'il y a un socle. Le socle, il est important. Voilà. Je faisais des tourtes de légumes. Je faisais des choses comme ça. Je faisais des plats très, très cuisine bourgeoise, mais méditerranéenne, tu vois, mélangée. Quoi. Donc, c'était un peu ça, mon ADN. Ça allait toujours un peu dans la conception de ce que je fais, dans mes bases, dans mes fonds de sauce, dans les choses comme ça. J'aime bien toujours avoir un socle solide.
Et ta cuisine est aussi très ancrée dans le territoire de la Camargue, parce que... de par ce que te fournit le potager, mais tu utilises aussi je crois que tu as arrêté d'utiliser de la farine de blé, tu utilises plus que de la farine de riz et de sarrasin qui est plus...
On arrive à en trouver, sarrasin on arrive à trouver localement, mais le blé, le riz aussi, le blé maintenant ça arrive, donc peut-être on va s'y remettre, on va voir. Mais oui, j'avais envie un petit peu chaque fois de restreindre pour être beaucoup plus créatif, quoi. C'était ça, hein. On s'aperçoit, nous, l'été c'est le moment où on marche le mieux, c'est le moment où il y a le plus de légumes. C'est le moment où on a des plats qu'on aime et qu'on trouve très intéressants. Mais finalement, c'est en septembre où on va le plus s'amuser, quoi. Parce que là, il commence à avoir des trucs qui ont été confits par le soleil. Il y a un petit peu moins de curcubitacées. Il y a un petit peu moins de légumes où il y a un très fort pourcentage en eau, comme le concombre, la tomate et tout ça. Donc, on a envie... On a envie un petit peu plus de cuisiner. L'été, on cuisine beaucoup moins.
Je veux dire, tu utilises le produit...
Ouais, le produit un peu plus brut, mais on ne va pas chercher des choses un petit peu plus cuisinées, quoi. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup... beaucoup de gens me posent la question, qu'est-ce que vous faites l'hiver ? Je fais la même chose que l'été. C'est pas parce qu'il y a moins de choix que c'est pas intéressant. Voilà.
Tu parlais de style culinaire, ça a été difficile de le trouver, de le chercher, de le trouver.
Je me suis pas posé la question comme ça. Moi, quand je dessine, quand on dessine, parce que je fais pas tout seul, mais quand on dessine, en tout cas les menus, on essaye de penser au menu dans sa globalité. Et donc on joue sur ce que la nature nous donne, en disant qu'on est d'accord que voilà, il y a 4, 5 produits, 6, 7, 8, 9 dans une saison, ils fonctionnent ensemble puisqu'ils grandissent ensemble, ils sont dans la même homogénéité saisonnière. Donc ça fonctionne, peu importe ce qu'on va mettre, ça va marcher. Maintenant, comment on accélère un petit peu, comment on accompagne le produit, comment on en fait quelque chose de travaillé avec du sens sans le dénaturer. Voilà, c'est comme ça qu'on construit avec les équipes. Après, nous, on s'échange. Voilà. Moi, j'échange beaucoup avec Benoît, puisque c'est la première personne qui va s'emparer de la recette, la transformer, lui donner vie. Et ensuite, moi, j'essaye de faire des essais avec lui, mais après, je me mets vraiment en retrait et je regarde comment les cuisiniers s'emparent un peu et s'approprient la recette, le produit. Parce que la cuisine qu'on a fait ici, c'est pas une cuisine de recette, c'est une cuisine d'instinct. Donc, il faut que l'instinct, il fonctionne pour tout le monde. Sinon, on aura un décalage.
Il faut être ouvert à ça, en tout cas. Je trouve c'est pas une façon de fonctionner.
Il faut, évidente. Voilà. Et c'est pour ça que l'importance d'avoir une mémoire du goût est, à mon avis, la chose la plus importante pour un cuisinier, beaucoup plus que sa technique. Puisque grâce au goût, grâce au ressenti, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Il y a un des cuisiniers ici qui, l'autre jour, on avait un chevreau, on a un magnifique chevreau à la carde, et il commence à le découper. Et il était un peu violent avec la façon dont il abordait la viande. Et donc je lui dis, parce que je l'avais formé sur la découpe du poisson, et je lui ai dit, souviens-toi comment on coupe ce poisson-là. Essaye d'aborder cette viande qui est beaucoup plus fragile, beaucoup plus subtile, comme tu aborderais un poisson. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait pas avec des gens qui sont là et qui comprennent pas le lieu. Donc il faut avoir quand même cette notion-là et comprendre, quoi. Voilà, il faut, ce que je disais tout à l'heure, il faut regarder beaucoup, observer énormément, écouter, reproduire le geste, comprendre la morphologie d'une viande ou d'un poisson, comprendre la morphologie d'un légume et le tailler dans le sens où on va le moins être en désaccord avec ce qu'il est. Je ne sais pas si c'est très clair.
Si. C'est aussi une soumission au temps aussi, beaucoup ici. Où
on ne peut pas mécaniser les choses. Il faut qu'on soit toujours... Oui, on a dit qu'on allait couper tel produit en brunoise, mais si ce produit-là, parce que sa forme a changé, sa maturité a changé, on ne peut plus se permettre de le faire comme ça, on va le faire autrement. Voilà. Faut pas te borner. Faut pas être final, voilà. Je ne sais plus quel chef a dit un jour, on lui a dit quand est-ce qu'un plat est à son sommet chez vous, il a dit quand on l'enlève de la carte. Et je crois que c'est ça, c'est vraiment ça. Je crois que quand on ne peut plus retravailler sur une assiette, quand on ne peut plus retravailler sur une recette, il faut qu'elle disparaisse, quoi. Voilà.
C'est pour ça que ça t'amuse aussi de faire ces quatre mains aujourd'hui. Donc c'est Adrien Cachot et il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres aussi. Et c'est deux jours, ce que tu disais juste avant, très fulgurant. Où vous laissez place à l'instinctivité de la rencontre pour élaborer un menu, mais qui est hyper fulgurant, parce qu'au bout de deux jours, il disparaît, la personne s'en va. Et...
Bah, c'est intéressant de voir comment des chefs qui sont dans des qui n'ont pas cette condition de travail merveilleuse comme on a, très ouverte et tout ça, réfléchissent à leur menu et comment est-ce qu'ils sont en retenue par rapport à ce que la nature leur offre en première ligne comme ça, ou est-ce qu'ils ont envie de se lâcher un peu plus et de se laisser aller. Et jusqu'à maintenant, ils se laissent assez aller, ils ont assez envie. Moi j'aime bien, je trouve ça très beau la timidité un petit peu. Tout d'un
de
coup,
s'approprier le lieu, de ou enfin de s'approprier le jardin, les produits.
De s'approprier le lieu, de s'approprier le jardin, et en même temps d'être un peu timide. Donc les dimanches, parce qu'on le fait sur le dimanche et le lundi, le dimanche c'est un peu timide. Le dimanche soir, il commence à réfléchir, il revient le lundi, il dit ouais, il y avait ça, j'ai envie de changer un petit peu ça. Et donc on fait des modifications sur les deux jours. Et en fait, on fait vivre tout simplement les plats à travers ce menu-là. Et donc c'est plus du tout un restaurant gastronomique qui fait un concours de testostérone de chef, c'est deux cuisiniers qui cuisinent pour 60 copains. Voilà. Et c'est en ça que c'est cool. Voilà. Il n'y a pas de comparaison.
Toi, ça t'apporte d'avoir tous ces gens qui viennent à toi un peu aussi.
Ça nous apporte vraiment, parce que j'ai des gens, comme je te disais tout à l'heure, très jeunes, et c'est vrai que aujourd'hui ils vont moins s'aventurer dans les restos comme moi je le faisais quand j'avais leur âge, quoi. Dès qu'on avait trois ronds, on allait manger chez les uns, chez les autres, on dépensait notre argent dans les restaurants pour nourrir justement notre culture culinaire, eux, ils le font moins. Ils sont moins aventuriers, un petit peu, je trouve. Pas tous, hein, mais en tout cas, ceux qui travaillent ici, ils le sont un petit peu moins. Peut-être parce qu'il y a de la distance, enfin, je ne sais pas. Et donc, je trouvais ça intéressant de faire venir des chefs qu'ils aiment bien parce qu'ils les voient à travers les réseaux sociaux ou la télé, ou exactement, sans vraiment connaître leur cuisine, et de leur dire, bah, écoutez, voilà, il y a ces gens-là qui sont hyper intéressants. Voilà, il y a Bruno aussi qui est venu plusieurs fois, voilà, il y a pas mal de gens qui sont venus plusieurs fois. Et
mais tu voulais pas taber sur des chefs, enfin c'était plus l'idée de faire venir des jeunes, des
l'idée c'était de faire venir talents, des chefs quoi. qui ont une cuisine assez libérée, en fait, assez libre, voilà.
Peu importe l'âge,
peu importe d'où ils viennent, peu importe leur statut gastro, ouais. Pas gastro, enfin, mais c'était vraiment avoir des gens avec une philosophie très ouverte, et il y en a plein aujourd'hui, donc c'est bien.
J'ai une tradition dans ce podcast et une interview dans l'interview que j'avais à l'aller-retour, donc pour répondre du tac au tac, ton âge.
Oula, 42.
Ton plat signature.
Le velouté d'herbe amère.
Ton plat préféré à manger.
Oh là là, non, mais c'est trop difficile ça. C'est trop difficile, j'aime tellement de choses. Les pâtes à la poutargue.
Le chef que tu admires le plus.
Ça aussi, c'est dur.
Le premier qui te vient.
Bon, j'aime beaucoup la famille Trois Gros. J'ai un énorme respect pour eux. Je trouve qu'ils ont 10 ans d'avance sur tout le monde.
Ton ingrédient préféré ?
J'aime bien le fenouil.
Ton ingrédient détesté ?
Je sais pas, le kiwi.
Ton ustensile fétiche ?
Mon ustensile fétiche. Mon couteau.
Japonais ?
Ouais, mon couteau japonais. Ouais.
Ton dernier meilleur repas ?
Mon dernier meilleur repas, c'est la petite équipe qui est en ce moment au Chardon. Ils sont assez exceptionnels. Voilà, c'est des expériences assez périlleuses pour eux puisqu'ils changent tout le temps de chef et tout. Et là, je crois que c'est l'ancien second de Harry qui est là-bas. Je me rappelle plus de son prénom. Je suis désolé, je m'excuse. Mais ils sont en symbiose tous là. C'est toute une jeune équipe. Ils se connaissent tous. Ils sont tous pétillants. Tout ça est orchestré par Thomas qui est devant et qui est sommelier et qui fait découvrir des bains fabuleux. Et c'est une cuisine qui est assez intéressante puisque c'est un assemblage de sensations très personnelles du chef mis ensemble et qui fonctionne très très bien, qui fonctionne vraiment très très bien. C'est simple, percutant, frais. Enfin vraiment, j'ai eu une très très belle expérience la dernière fois que je t'ai là-bas.
Le meilleur compliment qu'on t'ait fait ?
C'est quand on me dit que on n'aime pas un produit et que on fait changer les gens d'avis. Genre la betterave, par exemple. Je déteste la betterave, j'en mangerai pas. Et on leur demande de goûter si c'est possible. Et là, ils ont une révélation, en fait, ils sont plus fâchés. Et c'est terrible d'être fâché avec quelque chose, en fait. Donc, réconcilier les gens avec quelque chose, avec un produit, c'est la plus belle chose qu'on peut faire.
Et la pire critique ?
J'ai encore faim.
Ça arrive.
Ça arrive une fois, ça m'a marqué.
Ok, bon, l'aller-retour est terminé. On peut continuer sur les questions. Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi ?
Plein de choses. C'est mon socle, c'est ma raison d'être, c'est ma raison de vivre. C'est un canal absolument fantastique de rencontres, de communication à travers les messages qu'on a envie de donner. C'est un endroit très intime. Enfin, c'est la vie, quoi. Je pense que c'est assez la vie, et c'est quelque chose qui est en même temps très important pour notre survie et en même temps extrêmement poétique. Et c'est ça qui est beau.
Et ça permet d'explorer beaucoup de dimensions, à la fois la dimension environnementale avec tout le travail autour du potager, mais aussi inclusive, parce que tu travailles avec des associations pour le travail des femmes, par exemple.
Oui, oui, oui.
Artistique aussi, enfin, c'est vraiment...
Oui, mais tu peux toucher à tout, c'est quelque chose de totalement universel, et c'est ça qui est beau. Là, la semaine prochaine, on fait un repas avec un prof de philo de l'école de... de photo qui s'appelle Fabien Valos, qui est un garçon absolument incroyable, passionné de cuisine, passionné de cuisine italienne surtout. Et donc là, on a créé un échange fantastique là-dessus. Il y a le travail des étoiles et des femmes qu'on fait depuis 3 ans. On recommence cette année là. On va faire une journée de formation avec elle. Oui, c'est un langage universel. Et voilà. Et puis il faut se mettre, faut savoir ce qu'on est. Voilà. Il y a une notion de pouvoir qui est importante dans notre métier, qui peut nous rendre un peu fous, qui peut nous faire déborder, comme c'est en train de se passer, de sortir aujourd'hui. Mais parce qu'il y a une pleine puissance, en fait, quelque part, dans ce métier-là. Il y a énormément de stress, il y a énormément d'adrénaline. Il y a la frustration de laisser partir son plat une fois qu'on a passé une journée ou une matinée à faire quelque chose. Ben quand c'est fini, ça disparaît de notre vue. On ne sait pas où ça part, on ne sait pas comment ça va être perçu. Donc c'est tout ça, c'est l'autre côté aussi. C'est la page blanche tous les jours. Hein. On nettoie une cuisine tous les jours, il faut recommencer, même 2 fois par jour, la majeure partie du temps. Alors j'essaye pas d'excuser ou de comprendre les comportements des uns et des autres. Mais je voulais dire que c'était... il faut que ça s'arrête, ça c'est sûr. Et il faut essayer aussi d'expliquer un petit peu que ce métier-là, il a besoin d'un autre souffle, dans une autre organisation. Voilà. Et donc je trouve que les gens qui font de la réinsertion, enfin du changement, pardon, de métier ou de vie, ben ça apporte énormément, parce que justement on doit avoir un autre intellect et que c'est un métier qui, moi je l'ai connu, j'ai commencé par celui-là. Bon, ben c'est vrai que quand on a que la vision de ce métier-là et qu'on se force pas un petit peu à faire autre chose, à aller voir une expo de photos, aller au cinéma, à aller faire d'autres choses et voir d'autres choses, y a un enfermement qui se met un petit peu en place et qui peut être dangereux, quoi, tout simplement.
Qu'est-ce que tu cherches à transmettre aux clients ?
J'essaie de leur donner du plaisir et de la joie, voilà. Pour moi, c'est hyper important. J'ai pas envie d'être dans une représentation, dans une signature, mais j'essaye de leur donner un petit moment de bonheur, de faire en sorte que la cuisine soit accessible pour eux, qu'il n'y ait pas cette frustration de dire mais moi je sais pas, j'arrive dans un voilà, un étoilé, des fois ça bloque, ça fait bloquer les gens, ça leur donne envie de venir, tant mieux, parce que bon, comme tu vois, on n'a pas joué sur l'emplacement ici mais en tout cas si ça peut les aider à aller acheter des légumes au marché, ce sera bien.
Et c'est une fierté, cette étoile, ou c'est un poids ?
Non, c'est bien, c'est une fierté, bien sûr, c'est pas un poids. C'est pas un poids, mais c'est pas ça qui me réveille la nuit, ou c'est pas le premier truc que je me pense quand je me rase le matin.
Ah, je suis un chef étoilé. Et c'est dur, tu parlais du jugement des autres, de ton assiette là, qui part vivre sa vie et qui est jugée par les clients. C'est difficile pour toi ?
Ça l'a été, ça l'est plus. Ça l'est plus parce que voilà, il y a de la bouteille maintenant, que je suis beaucoup plus serein par rapport à ce que je fais. Mais oui, c'est de la, il y a quand même de la frustration. Ouais. Il y a une frustration qui s'installe tous les jours dans ce métier-là. Enfin, on fait un art éphémère à réaction directe, quoi. Donc, on peut faire le meilleur plat et en 2 minutes, ce plat, il n'existe plus. En même 1 minute, si on n'est pas sur la bonne température, si on n'est pas sur la bonne cuisson, le bon assaisonnement, le bon choix d'assiette, etc., etc. Donc, il faut être extrêmement concentré sur la cuisine et en même temps extrêmement ouvert sur l'environnement de la cuisine. Voilà, ça c'est voilà la table. Moi, ce qui m'a plu, c'est la table. Si j'ai fait ce métier-là, c'est pas pour la cuisine. C'est ce que j'ai fait ce métier-là parce que je regardais mon arrière-grand-mère faire à manger, mais surtout je la regardais recevoir. C'était un peu la patronne du marché de Montpellier. Donc il y avait le boucher, le charcutier, le poissonnier, le fromager qui était à table. C'était des grandes tablées familiales de 15-20 personnes, et c'est rester à table, se parler à table, s'engueuler à table, enfin voilà, ce lien familial, quoi. Je veux dire, dans le salon, il n'y avait pas de canapé, il y avait une table. Donc moi, c'est ça qui m'a intéressé, et je respecte les chefs qui mettent tout sur leur cuisine, mais je pense qu'il faut aller toujours un petit peu plus loin. Voilà, il faut comprendre que quelqu'un, il vient pour se détendre en restaurant. Voilà. Qu'il n'a pas forcément envie d'être concentré, la tête baissée sur une assiette, quoi. Voilà.
On allait peut-être un peu loin.
C'est très bien que ça existe. Non, mais c'est très bien que ça existe. Il faut tout. Hein. C'est comme il y a une multitude d'artistes qui développent des choses extrêmement différentes, plus ou moins cérébrales. Moi, personnellement, ma vision de la cuisine, c'est l'esprit de communauté, la liberté, l'échange, le partage, la générosité et l'amour. Quoi. Voilà, ça, c'est les devises.
Le moment passé ensemble. Et,
exactement.
Et on en parlait pendant le confinement. Tu me disais, il va y avoir, ou tu sais pas comment le dire, tu prenais un retour de la flamboyance en salle. Et ça va avec ça aussi. C'est peut-être pas le côté restaurant-spectacle, mais c'est une sortie.
Oui, c'est une sortie. Il faut que ça soit comme ça. Là, je pense qu'on va vivre un petit moment où il y a beaucoup de chefs parisiens ou de grandes villes qui vont avoir envie d'aller à la campagne et de se reconnecter à la nature comme nous on le fait ici, et tant mieux. Mais on va vite se retrouver avec des néo-auberges, quoi, après.
Des néo-auberges.
Des néo-auberges. Non, mais on va se retrouver sur, certainement, il y aura ce choix-là. Je pense que de plus en plus de chefs vont s'installer et vont voir les choses de façon beaucoup plus calme, simple, petite, et tant mieux, c'est bien. Mais après, je pense que pour toute la partie grand restaurant, de grand palace et tout, ce serait bien que ça revienne à quelque chose d'un peu plus flamboyant, quoi, aussi. Pas forcément fermé sur l'assiette.
Mais de toute façon, tu te rends compte quand tu vas au restaurant en tant que client. Enfin, il y a certains endroits où tu vas juste manger, mais souvent, tu vas pas que manger.
Bien sûr, bien sûr.
Tu vas chercher aussi d'autres choses, mais.
Tu vas souvent chercher un restaurant beaucoup plus convivial et pas forcément gustativement intéressant si t'es 10. Entre potes et que tu as envie que ça rentre dans toutes les bourses et que tu as envie de passer un moment où c'est généreux, mais c'est pas ça le sujet, quoi. Voilà. Bon, mais il faut vivre entre les deux. Voilà. En tout cas, il faut être toujours collé avec son environnement. C'est ça que je voulais dire, en fait, c'est que la cuisine seule, elle est rien sans l'environnement. Voilà. C'est important. On a fait, il y a des restaurants où je suis allé où ils sont dans un cadre. Très, très ancien, très, avec beaucoup d'histoire, et tout d'un coup, il y a une cuisine ultra contemporaine qui se colle à ça, et ça marche pas. Et c'est dommage, parce que l'endroit est fabuleux, la cuisine du chef, elle est extraordinaire.
Mais ça matche pas.
Donc on sent qu'il y a une frustration, forcément. Au milieu, la salle, elle est au milieu de ça. Les gens de la salle, ils sont au milieu de ça. Et donc, faut pas se mentir, quoi. Voilà, faut pas se mentir.
Tu te sens chef, restaurateur, DA, cuisinier. Tu te sens quoi aujourd'hui?
Je me sens cuisinier.
Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier?
L'échange. L'échange, les rencontres.
Avec à la fois avec ton équipe et avec l'extérieur.
Avec mes équipes, avec qui je passe beaucoup de temps. Avec mes fournisseurs, avec mon jardinier, avec mes clients, avec des gens que je rencontre. Voilà, aujourd'hui, il y a Adrien qui est là. C'est un très bel échange. Voilà, je le connaissais pas. Moi, j'ai pas la télé. On s'est rencontrés par amis interposés. On a discuté ensemble. Voilà, j'aime bien son côté extrêmement solide et en même temps sa grande sensibilité qui protège. C'est normal, il a 30 ans, il la protège un peu. Il n'a pas envie de se faire emmerder, quoi. Donc, je peux comprendre ça. Mais en tout cas, il a déjà une grande maturité. Moi, à 30 ans, j'étais pas comme ça. À 30 ans, c'est moi qui frappais le premier. En tout cas, dans l'émotion ou d'avoir envie de pousser les portes, quoi. Mais tant mieux, c'est intelligent d'être comme ça.
Tu doutes, toi, parfois?
Moi, je doute tout le temps. tout le temps. Ah oui, sinon, si on ne doute pas, c'est dangereux, quoi. C'est dangereux, ça veut dire qu'on ne se remet plus en question. Quand on ne se remet plus en question, dans un métier comme celui-là, on régresse, quoi.
Dans le cadre, enfin, je ne sais pas si c'est dans le cadre de ton poste ici, mais en tout cas, tu fais aussi les cartes de l'art latent.
J'ai mangé oui, j'aide, soir, j'aide les, j'accompagne de, les chefs. Ouais.
Enfin, tu fais pas mal de choses. Je me souviens que tu m'avais dit que tu avais fait la carte aussi, c'était pour l'espace croisière ou...
Non, croisière,
c'était
non, j'ai
pas
fait.
Croisière, c'était le
réfectoire au Parc des Ateliers. Si tu veux, on travaille avec Maya Hoffman, qui a créé la Fondation Luma et les Maisons d'Arles. Et grâce à ça, la Chassagnette, elle s'inscrit dans un projet global. Qui est à la fois de la restauration, qui est à la fois de l'accueil d'artistes, qui est à la fois d'ateliers de développement. Et nous, on essaye aujourd'hui d'être dans cet accueil d'artistes qui viennent à la fois au restaurant ici, enfin dans le jardin et dans le potager, à la fois d'accueillir des chefs un petit peu plus longtemps qu'à la Chassagnette. Donc là, ça fait 2-3 ans qu'on invite des chefs à la Chassagnette, mais on aimerait bien maintenant avoir des résidences un petit peu plus longue, d'une semaine jusqu'à 3 semaines, si c'est possible, ou à 3 mois. Bon, avec ce qui s'est passé là, peut-être qu'on va avoir la possibilité de le faire, parce que c'est vrai que c'est jamais possible pour un chef de quitter son restaurant autant de temps. Mais là, malheureusement, on risque d'avoir des possibilités avec certains chefs, enfin, malheureusement pour eux, mais heureusement aussi pour eux, puisque peut-être les recevoir en province avec tout ce que va pouvoir développer l'UMA au niveau artistique, ça peut être intéressant.
C'est vrai que tu participes à tous ces projets. Tu avais fait aussi la carte de Rosa Bonheur à un moment à Paris. Tu as écrit un MOOC, écrit un MOOC, un livre. Je trouve qu'il y a un point commun dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que tu le fais toujours en faisant le pas de côté et pour pas aller là où on pourrait t'attendre.
Ouais, j'aime bien. Je suis assez timide en fait. On dirait pas comme ça, mais je suis assez timide. Je suis pas très sûr de moi et donc j'aime bien essayer des petites. J'aime bien essayer des choses, quoi. Je crois que ce métier, il nous donne cette possibilité de le faire. Pas forcément tout le temps la liberté, mais en tout cas, voilà. Là, je travaille sur un projet avec la botte de Camargue. On va faire une ceinture de chef, là, une ceinture miam miam, on a appelé ça.
Une ceinture de chef. Qu'est-ce que c'est?
Ouais. C'est une ceinture avec plein de couteaux.
Ceinture de samouraï.
Ouais, c'est une ceinture de cow-boy, mais sans pistolet. Voilà, il y a un autre projet de livre là où tout va être entièrement écrit et dessiné à la main. Il n'y aura pas du tout de texte tapé ou de photo. Je fais ça avec Luna Julia.
Ça t'intéresse pas de rester dans le cadre ou de...
Non, j'aime pas trop. Non. C'est pour ça que ça m'arrange très bien d'avoir un restaurant où les choses changent tout le temps, parce que pour moi, il n'y a rien qui est plus constant que le changement. Et je m'ennuie vite en fait. J'aime bien quand un projet prend forme. J'aime bien m'en séparer. J'aime bien qu'il arrive j'aime bien tout de suite pouvoir le regarder un peu de loin, voir comment il évolue et pas me l'approprier. Voilà, on a fait.
Le seul livre que tu as fait, c'est Brut de Camargue.
Brut de Camargue.
Ouais, qui n'est pas un livre sur toi, mais qui est plus un livre. Tu vois, c'est pas un livre d'ego, comme on peut le voir.
Non, c'est un livre qui a été dans un espace-temps, en fait. Voilà. C'est le récit d'un moment en Camargue avec toutes ces influences que la Camargue peut donner.
Super belle photo, d'un territoire. Et...
Ouais, c'est vrai qu'on avait fait un truc assez original à l'époque. Ouais, c'était bien. C'était vivant en tout cas. Je l'ai regardé il y a pas longtemps. Et je trouve que ça va. Il a pas.
Il a pas vieilli.
Non, il a pas mal. Il est un peu old school. Enfin, il est un peu. Il est patiné quoi. Mais il a pas vieilli quoi. Vraiment. C'est une époque en tout cas. C'est bien. J'aime bien qu'on tout de suite on arrive à se remettre dedans quoi. Voilà.
Bon, ça y est, on arrive à la fin. J'ai l'habitude de demander une petite recette à faire si on veut cuisiner comme Armand Arnal à la maison.
Une petite recette à faire en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? En ce moment, il y a des jolies figues. Il y a des très belles figues. Moi, j'adore manger des figues avec du chèvre frais. Hyper simple. Juste coupé comme ça en quatre, même en deux, juste coupé en deux. Une petite cuillère de chèvre frais type brousse sur le dessus, bien poivré, pas trop de sel. Une petite goutte de vinaigre. Alors moi j'aime bien le vinaigre de Banyuls parce que c'est un vinaigre qui est pas trop acide pour ce genre de préparation. Et pas mal d'huile d'olive. J'aime bien quand il y a beaucoup d'huile d'olive. Voilà, une huile d'olive que j'aime beaucoup qui est l'huile d'olive gratte-semelle.
Tu nous en avais parlé la dernière fois.
Ouais, mais j'adore. Voilà, une huile d'olive un peu verte, quoi, un peu forte comme ça. Moi, j'aime bien les choses comme ça, extrêmement simples. Si on arrive à trouver un peu de basilic pourpre, on peut mettre un peu de basilic pourpre. Si on se promène sur le bord des chemins et qu'il y a du fenouil sauvage, on peut mettre quelques fleurs de fenouil sauvage. Les petits pistils jaunes comme ça dessus, c'est extrêmement agréable. On peut mettre un petit peu de ciboulette aussi si on a envie. Voilà, toujours mettre un petit peu d'herbe qui réveille, qui donne de la fraîcheur, qui fait vibrer un petit peu le plat, quoi. Voilà.
Merci Armand.
Merci.
Vous venez d'écouter Armand Arnal, épisode 3 de la saison 4. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle et le potager, rendez-vous à la Chassagnette, au Sambuc, à une quinzaine de minutes d'Arles. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli podcast ou sur le site apoil-lepodcast.com. Et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté.
Cet épisode a été monté par Julie Tépé, musique par Santiago Walsh. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'À Poil.